Le débat du jour, Guilaine Delteil.
Va-t-on vers la troisième intifada au Proche-Orient? C'est en tout cas l'appel qu'a lancé Khaled Mishaal, le chef du Hamas en exil à Damas, en Syrie. Pour lui, les bombardements aériens menés depuis 3 jours par l'armée israélienne sur la bande de Gaza appellent une réponse armée de la part des Palestiniens. L'État hébreu dit mener une guerre sans merci au Hamas au pouvoir à Gaza. Il a d'ailleurs rappelé 6500 réservistes et menace désormais de lancer une opération terrestre pour faire cesser les tirs de roquettes sur son territoire. Est-on donc en train d'assister à une escalade? Est-on entré dans une phase où seule la force parle et où la diplomatie n'a plus sa place? Cette opération de Tsahal met-elle fin aux espoirs d'un règlement politique du conflit? On en débat ce soir avec Bernard Bottiveau, directeur de recherche au CNRS, le Centre National Français de la Recherche Scientifique. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez publié en 2004, d'une intifada à l'autre, la Palestine au quotidien avec Aude Signol dans la revue Égypte Monde Arabe. Et Karim-Émile Bitar, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut Français de Relations Internationales et Stratégiques. Bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Alors une première question pour vous, Bernard Bottiveau. Une troisième intifada est-elle désormais la seule issue aux événements actuels?
Écoutez, pour le moment je ne crois pas, parce qu'en fait l'intifada, bon c'est vrai que la deuxième intifada est intervenue dans des conditions très particulières, qui était l'échec des accords de Camp David et la montée d'une tension qui était perceptible déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle a duré assez longtemps, elle a coûté très cher. Et peut-être que c'est après tout assez pratique et commode d'avoir ce terme à disposition, l'intifada. Moi, je dirais plutôt, si vous voulez, que ce que l'on peut attendre, c'est effectivement une sorte d'escalade qui va se produire, ça c'est indubitable, dans les territoires palestiniens. Mais en même temps, l'intifada, on peut considérer qu'elle existe presque au quotidien, parce que à chaque, on l'a vu à Hébron il y a quelques jours, on l'a vu, on le voit en différents endroits en Cisjordanie, Gaza c'est en permanence, mais il y a presque au quotidien des causes, si vous voulez, de révolte, des jeunes, etc., et qui descendent dans la rue, qui sont obligés de le faire souvent. Enfin, si vous voulez, les conditions de vie, c'est très connu, sont devenues tellement insupportables à Gaza pour commencer, mais même en Cisjordanie, que c'est vrai qu'il y a un état de tension permanent. Ça, c'est une chose. Mais de là à imaginer une troisième intifada organisée stratégiquement, parler des formations politiques et tout ça, les conditions ne sont pas du tout les mêmes, même que pendant la deuxième intifada.
Je le disais en introduction, Khaled Mishaal, le chef du Hamas en exil à Damas, appelle lui pourtant cette intifada de ses voeux.
Oui, mais bien sûr, mais Khaled Mishaal est dans son rôle, mais en même temps il est à Damas et peut-être aussi qu'il répercute des vues, politiques et stratégiques du gouvernement syrien qui par ailleurs est en cours de négociation indirecte avec Israël. Donc effectivement, considérer qu'il menace l'intifada, c'est un atout. Ceci étant dit, les conditions sont, enfin si vous voulez, l'indignation qui tourne autour de cette invasion israélienne nouvelle, si vous voulez, à Gaza, fait que les conditions sont largement réunies pour que une explosion populaire se produise. Ça c'est clair, mais est-ce que ça se transformera en intifada, c'est autre chose.
Karim-Émile Bitar, est-ce que ces événements conduisent, selon vous, à une troisième intifada?
Je partage le point de vue qui vient d'être exprimé. Je pense que ce qui est certain, c'est que le processus de paix est dans une impasse caractérisée. Nous pouvons parler d'échec quasi définitif, malheureusement, des accords d'Oslo, qui datent aujourd'hui d'il y a 15 ans. Le péché originel, la grande erreur des accords d'Oslo, c'est que les Palestiniens n'avaient obtenu aucune garantie quant à l'arrêt de la colonisation, ce qui fait qu'Israël a pu, pendant ces 15 années écoulées, poursuivre une politique qui visait à créer des faits accomplis sur le terrain. Il y avait à l'époque 130 000 colons lors de la signature d'Oslo. On en compte aujourd'hui 270 000 en Cisjordanie, sans même parler des 200 000 autres colons à Jérusalem-Est. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable exaspération populaire du point de vue palestinien. Donc les conditions psychologiques, les conditions sociales et même les conditions économiques d'une troisième intifada sont réunies.
Mais elle n'arrivera pas, cette intifada.
Voilà, par contre, je pense que les conditions politiques ne sont pas encore réunies à ce jour. Et la réponse à cette question va probablement dépendre de l'état des relations entre l'Iran et les États-Unis. Vous savez que l'Iran dispose d'une capacité d'influence assez considérable sur le Hamas, et l'Iran est aujourd'hui plutôt dans un état d'esprit qui vise à rechercher un grand marchandage avec les États-Unis, c'est-à-dire un marchandage qui permettrait de dessiner un modus vivendi à la fois sur la question nucléaire, mais aussi sur les problématiques libanaises et palestiniennes.
Mais qui dit marchandage dit aussi rapport de force. Ça veut dire que l'Iran inciterait le Hamas à rentrer dans cette confrontation ?
C'est éventuellement une des cartes que pourrait jouer l'Iran si les États-Unis ne se montrent pas suffisamment bien disposés envers elle suite à la prise de pouvoir de la nouvelle administration. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'exaspération populaire palestinienne. Certes, le Hamas est influencé par l'Iran, mais il est également sous pression de l'opinion publique palestinienne. Monsieur Abbas est aujourd'hui marginalisé, ses propres partisans sont en train de le lâcher et considèrent que la ligne de négociation, la posture de monsieur Abbas n'a pas eu les résultats escomptés et qu'il n'y avait plus d'alternative que la radicalisation et donc la perspective d'une troisième intifada.
Bernard Bottiveau, est-ce que ce sont effectivement l'Iran et les États-Unis qui, en dernier ressort, tirent les ficelles au Proche-Orient aujourd'hui ?
Écoutez, bon, là, on a un petit peu dévié sur les relations internationales, mais je dirais qu'ils tirent les ficelles d'une certaine manière, mais par rapport à la question que vous souleviez au départ, bon, ben, on était à peu près d'accord sur le fait que les conditions, effectivement, sociales d'une intifada sont parfaitement réunies. Il y a une exaspération vraiment très, très, très perceptible aujourd'hui, mais par contre, politiquement, ces conditions ne sont pas réunies, parce que c'est vrai que, il y a l'Iran, les États-Unis, mais je citais la Syrie qui est rentré un peu dans le processus de façon indirecte de négociation. Bien sûr, personne n'a intérêt à ce que ça dégénère, enfin je parle au niveau international, aujourd'hui tout le monde sent bien, enfin, les différentes parties en présence sentent bien que la situation est très tendue et dangereuse. Si vous voulez, si on prend le cas de l'Égypte par exemple, bon, l'appel récent du Hezbollah à manifester en Égypte et même à mettre en difficulté le président Moubarak. Qui est accusé de collaborer avec Israël, dans la mesure où il s'est toujours opposé à la réouverture du terminal de Rafah et que, d'une certaine manière, il est considéré comme un des facteurs qui contribue à la continuation du blocus contre Gaza, dont les habitants de Gaza souffrent considérablement. Donc effectivement, il est montré du doigt aujourd'hui, mais en même temps, l'Égypte et Moubarak est un peu coincé dans une situation où s'il ouvre un petit peu de ce côté-là, il donnera de l'importance au Hamas, ce qu'il ne souhaite surtout pas, parce que le Hamas, c'est quand même les frères musulmans, et c'est tout de suite aussi le lien de contestation qui peut se produire avec la principale force d'opposition égyptienne. Donc cet élément-là aussi est très important pour la suite, et explique pourquoi d'ailleurs l'Égypte ne pèse pas de tout son poids actuellement pour... en tout cas qu'Israël arrête son opération. Et malheureusement...
Mais l'Égypte a tout de même tenté une médiation, donc actuellement une médiation entre le Hamas et Israël. A-t-elle une chance de parvenir à un cessez-le-feu ?
On verra mercredi prochain, puisque il y a la réunion de la Ligue arabe au Caire, mais mercredi c'est quand même après-demain, d'une certaine manière c'est assez loin vu la dangerosité et disons le carnage sur le terrain, puisqu'il y a quand même énormément de victimes déjà, donc 2 jours c'est beaucoup, mais la Ligue arabe étant ce qu'elle est à l'heure actuelle, je vois pas très bien comment on va arriver peut-être probablement à une nouvelle trêve, ça c'est assez probable, quand personne ne le sait, peut-être à la fin de la semaine. Il y aura beaucoup de mal fait d'ici là, certainement, mais en tout cas, bon, supposons qu'il y ait une trêve, ça c'est pas exclu du tout, je pense que c'est l'intérêt de la plupart des partenaires régionaux. Néanmoins, cette trêve ne durera pas, enfin ce sera comme la dernière, si vous voulez, la dernière. D'ailleurs, ce qui est caractéristique, c'est on attribue donc au Hamas la rupture de la trêve. Bon, d'une certaine manière, c'est vrai qu'il y a tous ces envois de roquettes sur Israël, ça c'est clair, mais il ne faut pas oublier que le 4 novembre dernier, donc l'armée israélienne avait fait des incursions qui avaient provoqué une douzaine de morts dans la population de Gaza déjà, et c'était considéré déjà comme une rupture de trêve. Donc si vous voulez, ces trêves peuvent se reproduire, peuvent exister, mais il y a d'une part une montée de la tension, ça c'est parfaitement clair, et d'autre part des freins qui sont mis un peu partout, donc l'Iran, on en parlait, et les États-Unis en font partie certainement, parce qu'il n'est pas forcément dans le jeu de l'Iran actuellement de mettre un peu plus d'huile sur le feu.
Karim Emil Bitar, vous parliez donc du rôle en sous-main des États-Unis et de l'Iran. Est-ce que la nouvelle administration Obama, attendue aux États-Unis donc le 20 janvier, pourrait apaiser cette situation au Proche-Orient ?
Alors pour le moment, Barack Obama s'est réfugié dans la position très prudente. Il a dit qu'il n'y a qu'un seul président à la fois et qu'il n'allait pas intervenir directement.
Mais ça, dans près de 3 semaines, ce sera fini. voilà, il devra se prononcer.
C'est d'ailleurs déjà impliqué. David Axelrod à la télévision ce matin a dit que grosso modo il poursuivrait la politique traditionnelle des États-Unis de soutien inconditionnel à Israël. Et l'un des enjeux de cette attaque, c'est quand même qu'Israël cherche à réaffirmer son pouvoir de dissuasion, ce pouvoir de dissuasion qui avait été très amoindri par l'incapacité de l'armée israélienne à vaincre le Hezbollah durant la guerre de juillet 2006. Alors malheureusement, cet objectif-là, il semble très clairement qu'Israël, malgré sa force de frappe sans précédent, ne réussira pas à réaffirmer ce pouvoir de dissuasion, tout simplement parce que nous sommes en présence d'une guerre asymétrique et que, quelle que soit la force de frappe, elle ne parvient pas à mettre à genoux une population tout entière. Donc Israël sera très vite amené à revenir à plus de réalisme, et c'est à ce moment-là que l'on peut espérer que l'administration américaine saura très vite emboîter le pas et inciter les Israéliens à abandonner certaines des illusions qui ont fondé la politique des 20 dernières années et de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire à ce conflit.
Bernard Thibault, est-ce que la nouvelle administration américaine va insuffler quelque chose de neuf dans ce processus de paix au Proche-Orient ?
Dans l'immédiat, je ne pense pas. Et comme je crois que c'est un peu le sens de ce qui vient d'être dit, mais il faut aussi tenir compte du fait que les réactions, si vous voulez, israéliennes actuellement sont toujours dictées les décisions par le contexte électoral. Et il ne faut pas oublier que les prochaines élections ont lieu le 10 février. Donc d'ici le 10 février prochain, je pense pas que les choses bougeront beaucoup, malheureusement, et ça c'est même assez dangereux, parce que sur le terrain, on ne sait pas s'il y aura un accord, mais en tout cas, l'attaque actuelle d'Israël contre Gaza correspond à des objectifs électoraux très clairs, si vous voulez. Donc, tant qu'on n'aura pas atteint cette date, je ne sais pas si ça bougera beaucoup, et je ne sais pas si le nouveau président des États-Unis sera en mesure d'en tenir compte plus que ça n'a été fait par son prédécesseur jusqu'à maintenant.
La fermeté d'Israël en ce moment est dictée par des objectifs électoraux.
Oui.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. D'ailleurs, Henry Kissinger disait que la politique extérieure d'Israël découlait quasi systématiquement de considérations de politique intérieure. Et on a aujourd'hui le sentiment qu'il y a des surenchères au sein du cabinet israélien pour que Mme Livni et M. Barak puissent démontrer qu'ils sont eux aussi des faucons, toujours prêts à en découdre, comme M. Netanyahou. Et il y a en cela une dérive droitière de l'échiquier politique israélien dans son ensemble, qui date de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. La gauche est quasiment laminée, et l'on sent une dérive vers la droite et l'extrême droite. Et malheureusement, il n'est pas dit que ce ne soit pas finalement le plus faucon d'entre les faucons, à savoir M. Netanyahou, qui ne l'emporte au final aux élections prochaines.
Alors, on parlait de l'administration américaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un autre partenaire sur la scène internationale qui pourrait s'imposer, qui serait la Russie, qui a reçu Mahmoud Abbas récemment et qui est le seul membre du quartet pour le Proche-Orient à avoir des relations avec le Hamas, Karim Emil Bitar?
Oui, je pense qu'Israël est très sceptique sur ce point de vue. Israël ne souhaite pas que la Russie intervienne. Vous savez qu'il y a eu certaines tensions au moment de la guerre avec la Géorgie. La Russie avait accusé Israël d'avoir armé une partie de l'armée géorgienne à cette époque-là. Donc Israël tient à ce que les États-Unis demeurent le seul interlocuteur entre Israël et les Palestiniens. Et c'est là la tragédie de ce conflit, puisque les Palestiniens et les pays arabes en général estiment que les États-Unis ne sont pas un interlocuteur à équidistance des deux parties. Donc à long terme, je crois que ce serait plutôt l'Union européenne qui pourrait jouer un rôle, mais je suis pour ma part assez sceptique quant à un rôle russe dans l'immédiat.
Bernard Thibault, très très rapidement quelques mots. La Russie
Alors,
peut-elle être
sur ce point de vue de la Russie et la mention de la Géorgie. Quant à l'Union européenne, je rappelle quand même qu'il y a trois semaines maintenant, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont accepté le rehaussement des relations avec Israël dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne. Donc ça, c'est un signe aussi que les Européens ne sont pas encore mûrs pour analyser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire un conflit asymétrique, comme ça a été dit tout à l'heure, et dans lequel il faut prendre une position plus affirmée pour tenir compte de la réalité sur le terrain.
Bernard Thibault, je vous remercie, je suis obligé de vous couper, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Je vous donne rendez-vous demain sur Radio France Internationale pour un nouveau débat du jour.